intelligence et Seigneur, que tu nous aides à assimiler et à mettre en pratique tout ce que nous entendons de toi. Nous sommes venus ce matin.
On a une confession de foi dans l'église et c'est quelqu'un a suggéré que nous le cours de disciples se poursuive par la confession de foi. Alors, en examinant chacun des articles les uns après les autres, et c'est l'intention que j'ai. Le problème, c'est que je n'ai pas la confession de foi, la vraie, entre les mains. J'ai seulement l'ancienne. Donc, je pensais à ce que nous méditions un petit peu sur la foi. Parce qu'il y a une confession de foi. Donc, dans cette confession de foi, il y a la foi. Ce n'est pas simplement des doctrines qui sont assemblées les unes après les autres et les choses que l'on croit, mais les choses dans lesquelles nous plaçons notre foi. Alors, peut-être que c'est la bonne idée, avant d'aller plus loin, de commencer même une méditation sur la confession de foi, eh bien, c'est bien de parler de la foi. C'est avant de parler de l'objet, il faut parler de la chose. Alors, s'il y a une confession de foi, alors je pense que la foi vient avant la confession. C'est très important de parler de la foi. Parce que pour la plupart des chrétiens, il y a un malentendu par rapport à la foi. Je peux dire, si je regarde mon expérience dans ma vie chrétienne, la foi n'a pas été la chose que j'ai comprise du premier coup. Et même il m'a fallu des années avant de comprendre ce qu'est la foi. Et puis au fur et à mesure de mes progrès dans la vie chrétienne, eh bien j'ai appris davantage de choses sur la foi elle-même. Et si bien qu'il y a eu une démarche longue et progressive par rapport à la foi. Cela vient justement de ce malentendu qu'il y a dans les églises, de ce que la foi n'est pas précisée. On a certaines notions sur la foi, mais la foi elle-même n'est pas enseignée avec autant de... Comment dire on ne va pas assez loin dans la méditation sur la foi. Donc, il y a dans la Bible la foi. Alors, la foi a deux sens. Le premier, c'est la foi en Dieu, c'est on place notre confiance en lui. Et ensuite, eh bien, il y a l'objet de la foi, qui est appelé aussi la foi. C'est parler de l'analogie de la foi, selon les doctrines de la foi. Parfois, la doctrine elle-même est appelée la foi. Donc, il ne faut pas faire de la confusion entre les deux expressions. Mais dans la plupart des passages bibliques, c'est la foi, c'est-à-dire cette confiance en Dieu. Alors, le mot confiance en Dieu n'est pas suffisant. Le mot croyance n'est pas suffisant non plus. Le mot qui va le mieux, c'est la foi. Parce que si vous avez parlé d'une croyance, vous n'avez pas parlé de la foi. Et si vous avez parlé de la confiance, vous n'avez pas encore parlé de la foi non plus. C'est beaucoup plus que cela. C'est beaucoup plus étendu. C'est un passage que je voudrais lire dans l'Épître de Jacques. On va lire Épître de Jacques, chapitre 1, du verset 5 jusqu'au verset 7. Alors, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors, quand vous lisez l'épître de Jacques, vous voyez souvent que Jacques n'est pas très tendre, avec une certaine tiédeur et avec les gens qui ne prennent pas une vraie position. Donc, je laisse à Jacques les expressions. Je me garderai bien de les innover. Et si jamais j'avais pensé cela avant Jacques, je crois que je ne l'aurais pas dit. Mais c'est dans la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est inspiré de Dieu qui l'a dit. Donc, je vous le transmets. Mais ici, il est dit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, quelqu'un qui doute. Et malheureusement, eh bien, c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Par exemple, mon expérience personnelle, c'est que quand j'étais inconverti, le Seigneur Jésus n'avait pas encore touché mon cœur, l'existence de Dieu ne causait aucun problème pour moi. Je croyais en Dieu. Et je croyais que Dieu existait, mais je ne me posais même pas la question. Une fois que j'ai été sauvé, j'ai eu des doutes sur l'existence de Dieu. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont venues me dire la même chose. Alors, la question, elle est là. C'est pourquoi, quand nous ne connaissons pas le Seigneur, on n'a pas de doute. Bon, il y a des personnes, hein, qui sont athées, et elles ont réglé, pour elles, elles ont réglé la question. Mais il y a des gens qui ont une croyance en Dieu. Et même si elle est très vague, ils vous disent, je crois qu'il y a quelque chose. Et ils remettent pas en question cela. Ils ne cherchent même pas à le prouver. Ils disent, il y a suffisamment d'évidence. Alors, ils ne cherchent pas à aller plus loin. Mais c'est vrai que quand nous sommes chrétiens, souvent nous sommes assaillis par le doute sur ces questions-là. C'est par exemple, Jésus-Christ est devenu notre sauveur et nous avons des doutes quant à notre salut. Et j'ai eu ces doutes-là. Je me rappelle, je tournais en rond dans ma chambre, j'ouvrais un livre, je fermais. J'étais vraiment, vraiment pas à mon aise parce que je n'avais pas l'assurance de mon salut. Je savais que j'étais sauvé, mais je voyais tellement de fautes et de défaillances dans ma vie que j'avais des doutes. Et je tournais en rond, j'étais impossible de résoudre cette question. Et les personnes vers lesquelles j'aurais pu me tourner, eh bien, n'aurait pas pu me donner réponse. Donc, je n'allais pas les voir parce qu'elles-mêmes n'avaient pas la réponse pour elles-mêmes. Alors, j'ai ouvert un journal chrétien hein, qui se donnait. J'avais un exemplaire parce qu'on le distribuait dans la rue et je l'ai ouvert. Alors, tout est écrit en petit. Il y avait des lettres de cette taille-là. C'était marqué, c'est par la foi. Alors là, j'ai compris que c'était par la foi. Et j'ai dit, Seigneur, c'est par la foi. Il y a un moment où on doit passer de la croyance à la foi. Et quand on a des doutes, par exemple, comme avant d'être chrétien, on n'a pas de doute sur l'existence de Dieu. Une fois que nous sommes chrétiens, nous avons des doutes. Pourquoi? Parce que Dieu exige que nous passions de la croyance à la foi. Parce que Dieu ne se contente pas de ce que dans notre vie, il y ait de simples croyances. Il veut que nous ayons la foi. Et c'est là que toute la différence entre une croyance et la foi. Une croyance ne m'engage pas. La foi m'engage. Si je crois qu'il y a quelque chose, qu'il y a un Dieu, oui, il y a un Dieu quelque part, je peux ne pas faire plus de démarches. Mais si j'ai foi en Dieu, Dieu, je veux le connaître. Je veux savoir ce qu'il dit. Je veux savoir pourquoi il y a un Dieu. Je veux savoir pourquoi je suis là. Et quelle est ma relation avec Dieu. Et pourquoi Dieu peut se révéler. Qu'est-ce que je peux chercher? Il y a des comment, des pourquoi, des où et des choses, des questions auxquelles il faut absolument des réponses. Parce que on est passé d'une croyance à une foi. Il y a des multitudes de gens dans ce monde qui ont une croyance en Dieu. Alors, ils l'appellent de toutes sortes de manières, hein. Mais c'est une croyance. Et ils ne le recherchent pas plus que ça, hein. Alors, ils font des actes d'adeptes à leur croyance. Par exemple, vous avez un musulman qui va poser des bombes et voilà, il a une croyance dans son Dieu. Il appelle Allah et il a des croyances dans son Dieu. Il pose une bombe et il croit qu'il a plu à Dieu. Mais il ne se pose pas des questions, de questions, de vraies questions. Qui est mon Dieu? Quel est le caractère de mon Dieu? Par exemple, hein, le Coran dit que Dieu est miséricordieux. Il ne dit jamais que Dieu est amour. Hein. Ça n'existe pas l'amour. Donc il dit que Dieu est miséricordieux. Et ça, il le répète. Mais quand on pose des bombes, la miséricorde, je ne la vois plus. Parce que la miséricorde, c'est on attend que la personne se repente. Hein, la miséricorde, il y a une attente dans la miséricorde. Si Dieu est miséricordieux, il attend que le pécheur, eh bien, se tourne vers la vraie foi. malheureusement, ces personnes-là ne se posent pas de questions par rapport à Dieu, parce qu'ils ont simplement une croyance. Et la croyance suffit. Tandis que quand nous devenons chrétiens, c'est-à-dire quand nous naissons de nouveau et que Jésus-Christ est devenu notre sauveur, une croyance n'est plus suffisante. Il faut plus qu'une croyance, il faut la foi. La croyance, c'est peut être au niveau de notre intelligence. C'est-à-dire que notre intelligence a été satisfaite par certaines évidences et elle y adhère. Elle se dit, voilà, je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui existe et par qui vient toute chose. C'est après le nom qu'on lui donne, on ne sait pas. Mais il arrive un moment où il y a la foi. Et c'est un changement de dimension. Quand nous passons de notre intelligence à notre cœur, nous sommes satisfaits intellectuellement par les évidences, alors nous disons je crois, et c'est une croyance. Mais un jour, eh bien, il faut que cette foi devienne une foi du cœur. Ce n'est plus une croyance, ça devient la foi. Et c'est dans notre cœur. Alors, bien sûr, c'est pas, hein, on le sent, hein, c'est pas le cœur, notre cœur qui bat, mais c'est ce que la parole de Dieu appelle le cœur. Par exemple, il est dit dans les Proverbes, mon fils, donne-moi ton cœur, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. C'est toutes les sources de la vie viennent de notre cœur. C'est le centre de notre vie. Et notre responsabilité en tant que chrétien, c'est de lui donner notre cœur. Mais c'est au niveau du cœur, eh bien, que vient la foi et qu'est la foi. La croyance peut être intellectuelle. Alors, de temps en temps, nous avons des doutes parce que notre intelligence ne perçoit pas ou ne saisit pas les raisons, les pourquoi et les comment. Mais quand la foi vient du cœur, la croyance devient la foi et elle est du cœur, alors à ce moment-là, elle devient inébranlable. Et ça ne veut pas dire que nous avons toutes les explications, que nous pouvons tout prouver. Et justement, la foi, c'est d'accepter sans avoir toutes les preuves. C'est tandis que la croyance, il lui faut des preuves. Si la croyance n'a pas de preuves, ça s'appelle la superstition. Donc, la plupart des gens n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont superstitieux. C'était très péjoratif si vous dites oui, mais vous êtes superstitieux, la personne ne va pas vous aimer. Mais si vous dites c'est vous avez la foi, la chose, hein, oui, ça va mieux. Mais donc, il y a ce domaine de la foi. On est passé à quelque chose de différent, à une dimension supérieure. C'est à la dimension spirituelle. Nous ne sommes plus dans le domaine intellectuel, nous sommes dans le domaine spirituel. C'est pour ça qu'un chrétien qui a des doutes sur l'existence de Dieu, parce que, ou l'existence de Dieu, sur son salut, sur des choses comme cela, parce qu'à un certain moment, il faut passer à l'étape suivante. On n'a pas les évidences. Et c'est vrai que quand nous devenons chrétiens et que nous avons l'assurance de notre salut, c'est un témoignage intérieur. Et ça ne veut pas dire que nous sommes devenus parfaits. Ça ne veut pas dire que nous ne tombons plus. Il y a moins de chutes, ça c'est sûr, hein. Il y a des péchés qu'on ne pratique plus. Mais les évidences, si nous voulons des évidences pour baser notre foi, eh bien nous ne les avons pas toujours, hein. La foi est appuyée sur ce que Dieu dit et pas sur ce que nous ressentons, pas sur ce que nous voyons. Pas sur ce que nous constatons. C'est la foi a besoin d'un aliment, c'est ce que Dieu dit, et pas ce que nous pensons. C'est comme cela que nous avons l'assurance de notre salut. On sait que Dieu nous a sauvés et que nous sommes réconciliés avec lui. C'est une question de foi. Ce n'est pas une question de voilà, ma vie est meilleure que celle des autres et je suis devenu plus beau, plus grand, plus intelligent. Tout ça, c'est pas vrai. Nous sommes simplement des êtres humains et nous avons besoin de grandir et d'apprendre de nouvelles choses et de faire des progrès. Et c'est sur ce que Dieu a dit qu'est basée notre foi. Alors, Jacques est très dur, hein, parce que il y a un verset de l'Épître aux Hébreux qui dit au verset 6, 11, verset 6, « Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Vous pouvez tourner votre vie chrétienne dans tous les sens. Vous pouvez faire des multitudes de choses dans votre vie chrétienne. Si la foi n'est pas là, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. La foi est absolument nécessaire. Elle est incontournable. C'est pour cela que Jacques est si dur. Il dit, celui qui n'a pas la foi est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ce n'est pas dans une, dans la voie de la foi seulement, hein. C'est dans tout le reste des voies. Il n'y a plus rien qui cadre, parce que la foi est la partie la plus importante de notre vie chrétienne. La vie d'un chrétien se mesure à sa capacité de foi, à la taille de sa foi. Ce n'est pas à autre chose. Ce n'est pas l'assiduité aux réunions, ce n'est pas le nombre d'heures qui passent à lire la Bible, ce n'est pas ceci et cela. C'est sa foi. Et ce que Dieu regarde dans un cœur, c'est la foi. Et c'est tellement important pour Dieu, cette question de foi, que quand Dieu voit la foi, eh bien, il éprouve la foi pour qu'elle soit encore plus pure et plus forte. Parce qu'une foi qui n'est pas éprouvée ne peut pas être appelée la foi. Parce que dans sa définition, la foi, il est nécessaire qu'elle soit éprouvée. Elle soit éprouvée, et quand elle est éprouvée, eh bien on a la preuve qu'il y a la foi. C'est l'évidence qu'il y a la foi. Mais je dis, j'ai la foi, je crois. Oui, mais dans quelles circonstances tu es capable de croire et de continuer à croire? Est-ce que dans une grande épreuve, tu mettras toujours ta confiance en Dieu? C'est là qu'est toute la question. Alors il y a des gens, ils ont la foi. Voilà. Je crois, oh, Dieu est le Tout-Puissant, bien sûr. Et Dieu répond aux prières aussi. Mon frère prie, et je verrai ta foi. C'est là qu'est toute la question. Beaucoup de gens disent, mais j'ai foi que Dieu répond aux prières. Oui, mais la vie de prière est tellement maigrichonne, excusez-moi l'expression, que c'est même pas la peine d'en parler. C'est parce qu'il y a une prière de la foi qui est une prière active, persévérante, puissante, conquérante, une prière qui s'empare des territoires et qui combat l'ennemi. C'est de cette prière-là que je veux prier, c'est de cette prière-là dont je parle. Les autres prières, je n'ai pas récité des paroles dans mon coin, j'ai dit « Seigneur, bénis-nous » et « Seigneur, fais en sorte que tout aille bien ». Excusez-moi, mais nous ne sommes pas allés jusqu'au bout de la prière, ça ce n'est pas la prière. Cette prière-là, Satan peut la prier aussi. Hein. Et quand il entend les chrétiens prier de cette manière-là, je suis persuadé qu'il se frotte les mains. Il dit, continuez, continuez. Vos réunions de prière me plaisent. Continuez, surtout, surtout. Ne priez pas différemment. Mais il y a des moments où on prie. Et on dit, Seigneur, je te demande que tu interviennes dans cette situation-là et que tu agisses et que tu changes les cœurs, que tu changes les pensées. Il y a un monde perdu, il y a des multitudes qui se perdent sans toi. Je te demande que tu interviennes et que tu agisses, que tu convainques les gens de péché, de justice et de jugement. Voilà une prière. Et c'est là que, et si on persévère et on s'attend à Dieu, on demande jusqu'à ce qu'on obtienne, ça, c'est une prière. Et cette prière-là fait trembler Satan. C'est la prière de la foi. Mais la prière qui est « Seigneur, bénis-nous » et « Seigneur, qu'il ne nous arrive rien » et que toutes ces prières-là ne sont pas bibliques. Vous pouvez tourner les pages de la Bible, vous verrez que ce n'est pas des prières bibliques. La prière, c'est autre chose. C'est beaucoup plus puissant. C'est la foi. C'est tout ce qui fait la différence. C'est la foi. Que cet homme-là ne s'attende pas à obtenir quoi que ce soit de la part de Dieu, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il y a des personnes, elles peuvent être qualifiées de ces paroles-là. Et je peux dire que, tourner le doigt vers moi et dire, cet homme, c'est moi. Parce qu'il y a des moments où on n'est pas à la hauteur de la foi que Dieu demande de nous. Dieu demande la foi. Et c'est pour cela que la parole de Dieu est si exigeante par rapport à la foi. Il y a même un passage dans la parole de Dieu. Il est dit, les paroles qu'ils entendirent ne leur servirent de rien parce qu'elles ne trouvaient pas de foi en eux. C'est clair, hein? Elles ne leur servirent de rien. Vous pouvez lire la Bible, la connaître par cœur. S'il n'y a pas la foi, cela ne vous sert de rien. Parce que la parole de Dieu, elle est là pour que nous placions notre foi. Dieu a dit qu'il demande sans douter, avec foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il y a des personnes qui obtiennent des choses par la foi, qui ont demandé, et ils ont dit, Seigneur, je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. Et je me rappelle de cet homme il était rentré d'une réunion vraiment très, très touché. C'était une réunion pour progresser dans la vie chrétienne, hein. Et il avait compris des choses, et il était dans le combat, hein. Vraiment, c'était le combat de la foi. Et il est arrivé dans sa chambre, il s'est mis à genoux, il a dit, Seigneur, cette nuit ne se passera pas, que tu ne m'aies béni. Et dans les heures qui ont suivi, le Seigneur a vraiment béni cet homme. Et il pouvait louer le Seigneur et rendre grâce qu'il y avait eu un affranchissement dans sa vie, des choses qui avaient été changées, bouleversées complètement. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'irai jusqu'au bout. Et rien ne m'empêchera de prier et d'obtenir ce que je demande dans la prière. Parce que c'est la volonté de Dieu. Si vous priez dans la volonté de Dieu, où est la raison pour laquelle Dieu ne vous exaucerait pas? Si vous priez dans la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, si Dieu veut vous exaucer, pourquoi vous n'êtes pas exaucé? La raison, c'est, tiens, en trois lettres, la foi. Foi, la foi. Il manque la foi. Et malheureusement, et c'est comme je vous ai dit, il y a un malentendu dans l'Église. C'est-à-dire que la foi n'est pas mentionnée et on ne parle pas de la foi comme il faudrait en parler. Et quand on parle de la foi, souvent, on a confondu la foi et la croyance. Et ce que nous appelons foi, souvent, s'appelle croyance en vérité. Ça ne s'appelle pas vraiment la foi. Et nous sommes coupables devant Dieu quand nous n'avons pas eu suffisamment de foi, quand notre foi n'est pas conquérante, quand notre foi n'est pas persévérante, quand notre foi ne cherche pas à grandir et aller plus loin, à obtenir. Quand vous lisez le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, et je vous encourage beaucoup à le lire, vous allez voir comment ces hommes, hein, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont ressuscité des morts, ils ont changé les choses par la foi. Ils ont vaincu des royaumes. C'est par la foi. Par la foi. Et même, il est dit, il y a une petite parole. Je la trouve peut-être pas. Oui. C'est le verset 33. Et qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses. Obtinrent des promesses. Et Dieu s'engage et dit, je te bénirai. Vous avez obtenu que Dieu vous dise cela? Ah, priez avec foi jusqu'à ce que vous obteniez cette parole, une promesse. Je te bénirai partout où tu iras, dans tous les lieux que foulera la plante de ton pied. Si vous avez une pareille promesse. Vous l'avez mérité, hein. Votre foi est allée jusqu'à obtenir une promesse. Et c'est une promesse qui n'est pas pour un jour ou deux, hein. C'est une promesse pour une vie. Et chaque jour de votre vie, vous pouvez la présenter à Dieu et dire, Seigneur, tu as dit, et je l'attends, et je l'attends, et je l'attends. Il y a des promesses que l'on a obtenues et que on n'a pas encore vu l'exaucement. Et on l'attend. Abraham a obtenu une promesse. Il a attendu 25 ans. 25 ans. C'était l'épreuve de la foi. C'est pour cela que quand on parle d'une confession de foi, il faut d'abord parler de la foi. Parce que si on n'a pas parlé de la foi, on va parler de l'objet d'une croyance. Nous n'avons pas de croyance. Nous avons la foi. Et nous plaçons notre confiance dans ce que nous appelons une confession de foi. Ce n'est pas simplement des articles par lesquels nous disons, eh bien, c'est toutes ces choses-là, eh bien, j'y adhère, j'y mets mon approbation. Voilà. Sinon, on aurait appelé ça des articles d'approbation. C'est des articles de croyance. Mais ce sont des articles de foi. C'est-à-dire que nous plaçons notre confiance dans ces choses-là. Je suis plus concret. Par exemple, si nous disons, nous croyons à l'existence de Dieu. Voilà. C'est un article de foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu est une réalité pour moi. Est une réalité pour moi dans ma vie de tous les jours. Et je ne change pas la direction de ma foi dans l'existence de Dieu, dans la réalité de Dieu, pour le péché, pour la désobéissance, pour ceci ou cela. Je crois en Dieu. J'ai foi en Dieu. Et ça change ma vision du monde. Ça change mes perspectives. Ça change mes attachements. Je deviens différent. Parce que je n'ai pas une croyance seulement, mais j'ai une foi. Voilà, je vais arrêter là.